Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour, bon matin, bonsoir, bonne année.
Peut-être bonne nuit. On sait pas, on sait jamais.
Bienvenue à l'émission Dossier bizarre, Tristan Bonnet-Dupont et...
Jason Lévesque! Eh oui, c'est moi-même ça!
On va vous parler aussi aujourd'hui d'un autre sujet, d'un autre dossier bizarre.
Je vais baisser le chauffage, Tristan.
Ah, ben oui, bonne idée.
J'avais fait chauffer. Le studio était frais un peu. Ben là, c'est chaud. Exactement. Eh, voilà. Eh oui, on va parler d'un autre sujet aujourd'hui qui est dans le cadre de dossier bizarre. C'est parfait pour dossier bizarre, le sujet qu'on parle aujourd'hui. C'est pas. Habituellement, tu sais, on va prendre le Kraken.
Ouais.
On va parler du Kraken. On va parler de. On a parlé du tueur à l'âge de la Nouvelle-Orléans dans la première saison. On a parlé du tueur à l'âge. Mais là, on va parler de plusieurs personnes, mais qui sont tous reliés ensemble par un sujet précis.
Ah, OK. Oui, d'accord, d'accord.
Rentabiliser la mort. Et là, je ne parle pas. Il faut faire attention, là. On ne parlera pas de maisons funéraires. On ne parlera pas de. Bon, on sait que ça coûte très cher mourir. Hein? Ça coûte cher, bon, pour le thanatologue ou l'inhumation, la crémation, la pierre tombale, ce genre de choses-là, ça coûte très cher. Mais ça, c'est correct, là. Ça, c'est un commerce qui est légal. C'est un marché qui est légal. Oui, c'est payant, mais c'est correct. Mmh. On va aller plus du côté sombre de la mort et de rentabiliser la mort. Pour certaines personnes.
Ah, ben c'est un dossier que j'ignorais totalement, en fait.
Hein?
Je
ne
connaissais pas ça pantoute.
Hein?
Alors, on va devenir des experts en quelques...
Ben, peut-être pas des experts, mais vous allez voir que ça date pas d'hier et ça fait quand même peur parce qu'il y a aussi des événements récents reliés à ça. Vous allez comprendre, okay. Là, je suis très évasif là, parce que je ne veux pas vendre des punchs avant qu'on commence, mais vous allez voir que c'est encore quelque chose qui, dans les temps modernes, peut se passer.
OK.
Sous une forme différente. Mais là,
désolé, je...
Non, mais vas-y, mon cher.
J'allais te poser la question. Est-ce qu'on parle dans cette situation-là de gens qui déterrent où qu'on passe où c'est des meurtres?
Là,
je suis comme curieux, là.
On est comme un peu dans tout ça.
OK.
On est comme un peu dans tout ça. On va se remettre dans le temps. Écoute, c'est probablement arrivé avant.
OK.
Avant cette époque-là, on parle de 1827 en Écosse. Il s'est passé quelque chose de très particulier. Et c'est probablement arrivé avant. Mais là, on se remet dans le contexte. Encore une fois, on voyage toujours dans le temps, nous autres. Hein?
Ben
là,
oui, ben
on
oui.
recule. On se met dans l'ambiance de l'époque. Uh-huh. 1827, époque plus ou moins victorienne en Écosse. Beaucoup d'immigrants irlandais. C'est bon, ça fait partie du royaume britannique. Et à l'époque, la science commençait à se détacher du côté mystique, côté religieux, côté magie, côté un peu mystérieux. Ça devenait une science,
uh-huh.
une vraie science qui se détachait du reste. Donc, c'était plus des croyances, c'était plus d'essais-erreurs. Les médecins étaient de plus en plus formés. La science commençait à se développer de manière très sérieuse. Mm-hmm. Il y avait des universités qui enseignaient la médecine en bonne et due forme. Les médecins devenaient de plus en plus performants, si on veut, pour guérir des maladies, pour connaître bon les causes, les remèdes et bon tout ce qui allait avec une maladie. Donc, c'est une époque où la science faisait des grands pas du niveau médical. Avant ça, ben on parlait de fallait faire des prières, puis il y avait des saignées, puis on y allait un peu essai-erreur, puis on trouvait quelque chose qui marchait, on y allait, puis on l'appliquait. Mais là, on développait la science de la médecine vraiment de manière très rapide. Ça se développait rapidement. C'était un milieu qui était hyper compétitif aussi.
OK.
Étant donné que c'était un milieu qui était hyper compétitif, les universités redoublaient d'ardeur pour attirer des étudiants, mais attirer des médecins aussi, enseignants, qui étaient performants. Et on voulait avoir la meilleure réputation comme université qui enseignait la médecine, parce que c'était la science de l'heure.
Ah, OK, oui.
À Édimbourg, on avait l'université qui était la plus reconnue dans le royaume, qui était une université de médecine qui... avait les meilleurs médecins, qui avait la meilleure réputation, et elle voulait maintenir cette réputation-là.
Réputation, oui.
Le problème, c'est que pour faire ça, à cette époque-là, on avait besoin de cadavres.
Uh-huh.
Et les cadavres, avant cette époque-là, il y avait beaucoup d'exécutions. L'entente que les universités avaient avec l'État était qu'un criminel qui était condamné à mort, le corps était ensuite envoyé à l'université pour servir de cobaye, servir de pour la dissection, pour les études.
D'accord.
Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a des lois qui ont changé et il y avait de moins en moins
d'exécutions.
Donc, la quantité de cadavres frais et utile pour les universités a diminué.
OK.
Et ça l'a créé un vide. On revient souvent avec ça, hein, mais quand il y a un vide qui se crée, il se remplit tout le temps avec quelque chose.
Ouais.
Alors là, on s'est mis à avoir des gens qui vendaient des cadavres aux universités. Ça là, tu as parlé de déterrer des cadavres. Ben oui, les gens se sont mis à déterrer des cadavres. Donc, on spottait les enterrements. Oh, oh, il y a des funérailles aujourd'hui. Oh, il va y avoir un cadavre. OK, on attend la nuit, on va aller le déterrer. C'est beaucoup de travail déterrer un cadavre. Pas que je l'ai déjà fait, là, mais c'est beaucoup de travail quand même. Ben je suis capable de l'imaginer. Donc, les gens allaient déterrer des cadavres et les amenaient à l'université pour le vendre par la suite.
Okay.
Les médecins et les universités disaient « Laisse-les là, je te donne ton argent. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir d'où ce qui vient. Je veux pas savoir où tu l'as pris. Je veux rien savoir. Fais juste le laisser là, je te paye votant. » Donc, il y avait comme une espèce de marché noir du cadavre.
Ah, ouais.
C'est quand même particulier.
Ben oui, vraiment.
Sauf que, je l'ai dit, c'est beaucoup de travail d'éterrer un cadavre. Il faut le trouver, il faut attendre qu'il y ait des funérailles, il faut qu'on soit capable d'avoir, quand même secrètement aller le chercher, après ça le transporter, après ça l'amener. C'était beaucoup de travail. C'est à cette époque-là, donc en 1827, il y a deux immigrants irlandais qui étaient en Écosse qui s'appelaient William Eyre et William Burke, qui ont commencé à faire ça. Okay. Donc, il y a quelqu'un qui les a approchés. Les gars, c'était des petits criminels, pas très riches, étaient pas tout le temps là. C'était pas nécessairement les deux plus brillants, mettons. C'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Et ils ont commencé avec un contact qui avait déjà lui vendu des cadavres. Il a dit si vous m'aidez, on peut faire de l'argent, les gars, allez déterrer des cadavres frais, puis aller les vendre à l'université, puis on va faire une petite business. Fait qu'ils ont commencé à faire ça, eux autres.
OK.
Puis ils se sont rendus compte, hey, c'est de la belle argent, ça. C'est de la belle argent. Alors, ils étaient contents de leur sort. Mais à un moment donné, ils sont arrivés avec un cadavre déterré qui n'était pas en très bon état. Il était magané pas mal.
Okay.
Et là, ils se sont fait enguirlander par l'université parce que l'université, avec son standing, je l'ai dit, hein, c'était très compétitif, avait besoin de cadavres en bon état pour maintenir leur réputation parce que là, eux faisaient des dissections publiques.
Ah,
il y avait un amphithéâtre avec une table. On voit ça des fois dans des films américains. Là. Table avec le cadavre sur la table. Et là, les étudiants et les autres médecins et même d'autres universités venaient s'asseoir pour être témoins de la dissection du cadavre. Donc, ça prenait des cadavres en bon état.
Ben oui,
il fallait pas qu'ils soient maganés.
Ouais.
Fait que là, les gars se sont dit, c'est compliqué d'éterrer des cadavres. Ils veulent en bon état, récent, frais. On va tuer du monde.
OK. Alors, c'est de là que c'est...
Voilà. Alors, ça a été un duo de tueurs en série. Donc, ils ont, là, entre 1827 et 1828, tué plusieurs personnes.
Ah ouais.
Et encore une fois... Le problème avec ça, c'est en bon état, ne devait pas avoir de marque de violence non plus. Alors là, si on assommait quelqu'un avec une brique et après ça, on amenait son cadavre, hey, là, il est magané, là! Fait que là, au lieu d'être, je sais pas moi, 20 livres sterling, c'était 10 qu'il y avait. Fait que là, il perdait du profit. Puis en plus, il se faisait chicane.
Mm-hmm.
Fait qu'ils ont développé des méthodes pour tuer des gens sans qu'il y ait de marque physique pour que les cadavres soient en meilleur état lorsqu'ils le vendaient à l'université.
Ah, ouais.
Et ils ont même créé, en fait, il y a un terme dans le monde criminel, dans le jargon criminel qui s'appelle burking.
OK.
William Burke, on appelle ça du burking. En fait, c'est de suffoquer quelqu'un sans qu'il y ait de marque physique. Ils ont même donné son nom à une manière pour les tueurs de tuer.
Ah non.
Alors, ça s'appelle du burking. Alors, les deux hommes ont finalement été arrêtés, ont finalement été trouvés coupables. C'était des tueurs en série qui le faisaient strictement pour le profit. 17 victimes qu'ils ont eues, les deux, du moins confirmées, peut-être plus, on ne le sait pas. Donc, on commençait par être des déterreurs de cadavres, des trafiqueurs de cadavres, et on finit comme tueurs en série, parce que c'était la méthode la plus rapide, la plus facile, et la plus payante pour eux d'avoir des cadavres, d'obtenir des cadavres.
Pour vrai, j'ignorais tellement tout ça. Pour vrai, c'est... J'en reviens pas de tout ce que tu racontes en ce moment, puis ça me fait un peu peur de la nature humaine pour la science. T'sais, on sait que dans la science, il y a eu des tests sur des animaux, puis tout ça, pour faire des expériences scientifiques et tout, durant la guerre, les deux guerres. Mais cette tranche-là de la science, je l'ignorais totalement.
C'est assez intense de voir que, on participait plus ou moins, je dirais quasi consciemment, les médecins et les universités participaient à ces meurtres-là. Dans le sens où ils disaient « Je veux pas savoir d'où ce qui vient ton cadavre, fais juste le mettre sur la table, puis va-t'en.
Mm-hmm.
Dis-moi le pas. On savait qu'il y avait quelque chose de louche, quelque chose qui n'était pas régulier là, avec l'apport de Qatar. Puis là, eux en amenaient beaucoup. Là. Mm-hmm. C'était payant pour eux, là, au point qu'ils s'étaient rendus qu'ils évaluaient la valeur des gens qu'ils croisaient. Là. Oh, Tristan Brunet-Dupont, il est grand, il est jeune, il est en santé.
Il y a des affaires que...
Il ne semble pas d'avoir de difformité. Il est relativement grand, donc c'est un bon prospect. Lui, d'après moi, il vaudrait... Oh!
Il avait des valeurs monétaires associées
voilà,
à certains...
Voilà, il identifiait. Donc, il ciblait les gens selon leur état physique, leur âge. Est-ce que la personne est malade? Est-ce qu'elle a une maladie clairement visible à l'œil ou bien non? Et c'est comme ça qu'ils évaluaient, ils choisissaient leurs victimes. Souvent, on va dire qu'il y a une victimologie. Donc, je ne sais pas moi, un homme va tuer des femmes de race noire. Mm-hmm. Que des femmes de race noire, parce que c'est sa victimologie. Il va tuer seulement des enfants, il va tuer seulement des hommes homosexuels. Donc, il va toujours chercher dans le même... Eux, leur victimologie, c'était dans quel état le body de la personne est. Okay. Est-ce que la personne est en bon état ou non? Si c'est en bon état, oh, c'est une victime potentielle. Lui, il est magané, on le laisse tranquille. Fait, eux, c'est comme ça qu'ils choisissaient leurs victimes. Alors que les tueurs en série, on le sait, là, bon, les études disent qu'habituellement, ils vont toujours vers le même bassin de victimes. Ils vont toujours aller choisir sensiblement le même type de victime. Ben, eux, c'était vraiment l'état de la personne qui faisait qu'ils allaient vers certaines victimes.
Est-ce qu'on sait, ça s'est passé en Écosse?
Oui.
Est-ce qu'on sait si il y a eu ce genre de phénomène ailleurs dans le monde?
Ben oui, il y en a eu d'autres phénomènes comme ça, aussi prolifiques. En fait, eux ont marqué un peu l'imaginaire du côté du Royaume britannique, de l'Écosse, pas seulement de l'Écosse, puis de la planète entière, parce que, bon, en plus d'avoir tué 17 personnes, ce qui est énorme, il était flamboyant, avait, malgré que c'était deux, pas nécessairement les plus brillants, avait quand même développé des manières de faire en lien avec, bon, ben, si on l'assomme, on va avoir moins d'argent, tandis que si on l'étouffe puis que ça ne paraît pas, on va en avoir plus. Donc, on a développé une espèce de méthodologie. C'est plate à dire, là, parce que c'est très morbide, mais ils ont développé leur méthodologie en lien avec les profits qu'ils pouvaient faire à chaque cadavre. Donc, c'est carrément comme un boucher là, qui va couper sa viande selon la qualité de la viande, selon le poids, selon la coupe. Va y aller selon eux autres. Ah. C'était vraiment avec les cadavres qui allaient de cette manière-là. Et donc, c'est eux qui ont, je pense, dans ce type de comportement-là, c'est eux qui ont le plus marqué l'histoire de la criminalité ou des tueurs en série grâce au fait que, justement, eux autres, là, c'était ils rentraient travailler. Là.
C'était à temps plein, leur
affaire. Oui, c'est ça. Ils s'en allaient travailler, ils allaient au pub, ils regardaient, bon, ben, oh, j'en ai spoté une, hey. Puis là, eux autres, c'était pas, oh, j'en ai spoté une, hey, papi, je vais la ramener chez nous à soir. C'était, j'en ai spoté une, pour moi, elle, on va faire pas mal d'argent avec son lavant.
C'était les seuls ou dans les seuls qui tuaient exclusivement pour récupérer
absolument.
Les cadavres.
C'était pas par plaisir, c'était pas... bon, c'était pas... On voit les tueurs en série modernes, là. On va parler de n'importe quel là, dans les 50 dernières années. C'est des tueurs qui tuaient par plaisir parce que c'était une pulsion incroyable qu'il y avait. Ils devaient tuer, puis ils étaient pas capables de se contrôler. Eux en sont venus à tuer parce que c'était leur travail. Carrément,
exactement.
C'était leur gagne-pain. De tuer des gens pour après ça aller vendre leurs cadavres. Bon, évidemment, il était tordu, là, je dis, c'est pas n'importe qui aurait pu faire ça. Ça a été comme un enchaînement d'événements. Les planètes étaient alignées pour que ces deux hommes-là soient ensemble, que les deux aient la capacité ou le cœur assez solide pour tuer des gens. Et ont eu quelqu'un qui les a introduits dans le monde du trafic de cadavres. Et tout ça mis ensemble a fait qu'au bout de la ligne, il y a quand même 17 personnes qui sont mortes pour que ces gens-là puissent s'acheter des vêtements flamboyants, payer des tournées dans les bars, vivre bien parce que c'était très payant pour eux. Et il y a 17 personnes qui sont mortes pour ça. Alors pour eux autres, c'était carrément un business. C'était une relation d'affaires qu'ils avaient entre eux et avec leurs victimes.
Ah, c'est ça. Puis il faut dire qu'à l'époque, en 1827, il y avait moins bonne confiance. Les gens avaient une moins bonne confiance envers la science quand même.
Ben oui.
Fait que tu sais, aujourd'hui, en 2020, il y a une liste extrêmement longue de gens qui décident de donner leur corps à la science.
Exactement. Là, maintenant, moi, je vais pouvoir remplir un formulaire pour dire, bon, ben moi, quand je vais décéder, j'ai pas vraiment de famille, j'ai pas personne, là. Mon corps peut aller à la science si ça peut aider quelqu'un. Bon, c'est ça. Vous allez pouvoir prendre mes organes, par exemple, des dons d'organes, et pouvoir aussi étudier, bon, peu importe, mm-hmm. là, garder mes organes qui ne seront pas transplantés. Vous allez pouvoir les garder pour faire des études, faire des tests, faire des découvertes scientifiques qui pourraient peut-être aider mon prochain.
C'est ça, ça se fait sur une base volontaire et on en a assez dans le monde de la science aujourd'hui. C'est plus un problème. Par contre, à l'époque, en 1827...
C'était compliqué parce qu'avant, il y avait quand même assez de cadavres qui étaient livrés par la justice avec les exécutions. À un moment donné, moins d'exécutions, moins de cadavres, moins d'études, moins de possibilités. Les universités compétitionnent entre elles. Les médecins compétitionnent entre eux. Tout le monde veut être celui qui va trouver, faire une découverte importante et devenir une sommité. Mm-hmm. Alors là, on était prêt à fermer les yeux sur certains comportements pour se procurer des cadavres. On les payait chèrement. Et en plus, on disait, on pose pas de questions. T'amènes un cadavre, je veux même pas savoir d'où ce qui vient. Va-t'en chez vous, tiens, voilà ton argent. Dis-moi surtout pas où tu l'as pris. On voulait même pas le savoir pour se détacher un peu légalement de ce qui se passait. Mm-hmm. Mais tout le monde savait qu'il y a beaucoup de cadavres qui étaient soit déterrés ou bien que c'était des meurtres.
Les côtés sombres de la science qu'on ignorait à l'époque.
Ça l'a amené quand même. Qu'on le veuille ou non, il y a des découvertes qui ont été faites grâce à ça. Qu'on le veuille ou non, il y a des remèdes qui existent aujourd'hui grâce à ça. Il y a des techniques de médecine qui existent grâce à ça. Mais est-ce que, comme personne, je peux cautionner le fait qu'on ait fait ça juste pour avoir des découvertes? Pas certain que je me sens à l'aise.
À l'époque, entre 1800 et 1900, c'est assez terrible. Si on savait la quantité de choses pas éthiques du tout là, que les humains ont fait pour tester des affaires, pour science, ça n'avait pas d'allure.
On a juste à penser aux scientifiques allemands durant la Deuxième Guerre mondiale qui n'avaient aucun code d'éthique à respecter. Ils pouvaient prendre des juifs... le test qu'ils voulaient avec eux sans avoir aucun respect pour la vie, pour la douleur, pour la personne. Ces scientifiques-là, il y en a plusieurs qui après ça ont été rapatriés aux États-Unis en tant que scientifiques et qui ont été engagés aux États-Unis pour continuer des recherches avec un code d'éthique plus serré. Mais quand même, ces gens-là étaient des monstres.
Exactement.
Et on les a engagés parce que leur connaissance était plus importante que les crimes qu'ils avaient commis aux yeux de certaines personnes à cette époque-là aux États-Unis. Fait que c'est quand même grave de penser à ça. Et c'est prouvé, là, il y a des chercheurs allemands, des scientifiques allemands qui auraient dû être jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui ont été protégés et rapatriés aux États-Unis avec une nouvelle identité puis qui ont pu continuer à pratiquer leur métier.
Non, c'est vrai. Peut-être un petit mot là, sur l'imbécilité des humains à une autre époque. Ça, je pense que je l'avais déjà compté, mais je la ramène en 1800. En fait, je me rappelle plus si c'était début 1900 ou fin 1800, mais bref, à un moment donné, il y a eu un déversement de combustible fossile dans l'océan, dans le golfe du Mexique. Et la solution idéale à l'époque, c'était pour nettoyer le pétrole, les combustibles fossiles qu'il y avait dans l'océan, c'était de déverser des tonnes et des tonnes de produits nettoyants dans l'océan. Puis il y a des images encore, les premières images, des photos où tu vois des bateaux, des navires de l'armée qui versent des tonneaux et des tonneaux de détergents super toxiques dans l'eau. C'est juste un mélange de pétrole puis de produits chimiques.
On n'a pas tellement aidé en faisant ça,
mettons. On voit que c'est une autre époque.
Mais c'est ce qu'on pensait qu'elle allait aider. Malheureusement, on n'avait pas d'autre manière de voir les choses. On pensait vraiment que c'est ce qui allait aider ou régler la problématique, alors que ce n'était pas le cas du tout. Mais la science a avancé. Oui. On est rendu à un point où on regarde ça et on dit « On était donc bien sans dessin dans ce temps-là, ça n'a pas de sens. » Mais il y a une évolution quelque part. Et les gens, dans 200 ans, vont regarder 2020... Puis ils vont peut-être écouter notre podcast puis dire, il était donc bien sans dessin, ces deux-là. Pourquoi qu'ils disaient ça? Ça n'a pas d'allure, ce qu'il dit. Parce que c'est comme ça. On évolue. Mais ce qu'on croit aujourd'hui, puis là, aujourd'hui, on dit, je prends un exemple complètement farfelu, mais oui, il y a probablement peut-être possibilité d'avoir de la vie ailleurs dans l'univers, mais les chances qu'on les rencontre ou qu'ils viennent ici, ça n'a pas d'allure. Peut-être que dans 200 ans, la planète va être peuplée à moitié d'extraterrestres, puis ils vont dire « Hey, en 2020, ils disaient qu'on n'existait même pas les extraterrestres. Hein, écoute ça, puis ça va être humoristique pour eux de voir qu'est-ce qu'on disait. Ça peut arriver, ça, ça pourrait être ça. Mais pour nous, c'est notre réalité actuelle. Et pour eux, c'était leur réalité à l'époque.
Exact. Dans tous les domaines de la science, peut-être avant d'aller en pause, comme à l'époque préhistorique où quand on avait un mal de tête, on perçait un trou dans la tête avec un gros clou, je sais pas trop. C'était genre, on a retrouvé des crânes humains avec des trous, puis c'était récurrent. Là. Ouais. T'avais mal à la tête.
Toujours à la même place, de la même manière à peu près, c'était leur remède.
C'était pas des Tylenol, là. C'était on perçait un trou dans le crâne, et voilà! Je te dis, l'humanité.
J'aime mieux prendre de l'aspirine ou du l'ibuprofène. Ça fait moins mal un peu.
Courte pause, bien sûr.
Oui, courte pause, parce que bon, tu m'as demandé, est-ce que c'est arrivé à d'autres époques? Ben ah, oui. Ben j'en ai d'autres cas.
Ah bon.
Ah oui, j'en ai d'autres.
On veut tout savoir.
Absolument.
Restez là, on revient dans quelques instants.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Les lutins élégants.
Oh, lutins élégants, depuis l'installation de notre aspirateur central au mois de septembre dernier, nous pouvons enfin offrir des services de liposuction. Et dis-moi, Bob, où est passée Madame Kazowski?
Madame Kazowski est passée dans le tuyau de l'aspirateur.
Oh, oh, oh.
Les lutins élégants.
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Jason Lévesque, salut!
Bonjour! Hey, comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ça a fait du bien, cette pause-là.
Hey, ouf! Tabarouette!
Aïe, aïe, aïe!
On revient d'une mission en Arctique, nous autres,
là! Ah oui, c'est ça, on était partis, ça a l'air de rien, là, mais comme c'est préenregistré, on était partis 3 semaines. Dans la deuxième partie, on fait ça 3 semaines plus tard.
On parle d'un sujet assez hors du commun aujourd'hui. Accrochez-vous, accrochez-vous.
Eh oui, on parle de la mort comme un business. On parle pas de maison funéraire, non, on parle de criminels qui se sont enrichis grâce à la mort.
Exactement. Assez morbide. Attention au cœur sensible.
Ben oui, ben en fait, on a parlé tout d'abord là, de William Burke et William Hare, qui sont probablement les deux tueurs en série les plus connus pour avoir tué simplement pour le profit. On parle d'avoir vendu des cadavres qu'ils avaient tués pour les universités, les médecins qui faisaient de la recherche. Alors, on tuait des gens et on a tué des gens, 17 personnes en fait, en évitant d'abîmer le produit parce que le cadavre, c'était leur produit. Alors, on tuait sans abîmer le cadavre pour pouvoir avoir un meilleur prix qu'on vendait.
Ça, c'était en Écosse en 1827.
1827-1828, donc les deux hommes qui ont été arrêtés par la suite, là, qui ont été trouvés coupables de meurtre. Et on s'en va un petit peu plus loin aux États-Unis cette fois-là.
Ah, d'accord.
Tristan, il y a des cadavres qu'on utilisait dans les universités, et ça se fait encore, tu l'as mentionné là, avant la pause. Maintenant, c'est sur une base volontaire. Les gens disent, oui, je veux donner mon corps à la science, et c'est correct, et c'est légal, c'est tout à fait correct. Ça permet aux chercheurs, bon, aux scientifiques de faire des recherches avec des cadavres. Mais il y a aussi autre chose, les squelettes. Ah. Dans les universités, il y a des squelettes aussi. Hein? Ouais. Le corps humain, on a besoin du squelette pour l'ossature. Uh-huh. Et bon, on a des squelettes synthétiques maintenant, qui sont des squelettes, là, des moules en plastique ou dans une matière quelconque. Mais avant, on avait besoin de vrais squelettes.
OK, ouais.
C'est important d'avoir des vrais squelettes parce qu'on ne pouvait pas fabriquer un squelette de manière synthétique.
Avec une imprimante 3D comme
ça. Non, voilà, ça se fait pas. Alors là, on est encore dans les années 1800. On se projette un petit peu plus loin en 1892-93.
OK.
Donc, aux États-Unis. Les États-Unis vivent bon une période faste là, dans cette époque-là. Et les États-Unis, il y a du côté de... écoute, là, j'ai de l'air nono, je me suis mis... Chicago, on revient à Chicago.
OK, OK.
Du côté de Chicago, on a l'exposition universelle.
Ah, ouais, okay.
Qui va s'installer en 1893.
Okay.
En 1892, un certain Herman Webster Mudgett, mieux connu sous le nom de H.H. Holmes,
okay, ouais.
Le triple H, qui fait construire un hôtel à Chicago en prévision de l'exposition universelle. Donc, monsieur est un homme d'affaires. Si je ne me trompe pas, là, il est pharmacien.
Okay.
Ou du moins, il y a une pharmacie ou un truc de produits médicaux. Et il fait construire un hôtel pour héberger les très nombreux visiteurs qui vont venir à Chicago pour l'exposition universelle de 1893. Donc, M. Holmes fait construire son hôtel, bel immeuble, bien situé, parfait pour accueillir des centaines de personnes durant l'exposition universelle. Ce qu'on ne sait pas au moment de la construction, c'est que M. Holmes transforme certaines pièces de son hôtel en chambres d'horreur. C'est un tueur en série, M. Holmes.
Ah ouais!
Et il a transformé son hôtel en maison d'horreur, ben, carrément. Il y a certaines chambres où il y avait des gaz. Donc, la personne était enfermée dans la chambre. Une fois la porte fermée, elle ne pouvait plus sortir. Et là, il diffusait des gaz.
Ah, ouais.
Il a torturé des gens de manière épouvantable. Alors, son hôtel servait à assouvir son désir de tuer. Lui, c'est un vrai tueur en série.
OK.
Il n'a pas commencé à tuer pour rentabiliser ou faire de l'argent.
Okay.
Il a commencé à tuer parce que c'était un vrai tueur, un malade qui avait besoin, voilà, un psychopathe dangereux là, qui avait besoin de tuer, qui avait besoin de, bon, qui avait des pulsions meurtrières. Donc son hôtel, c'était une usine à meurtre, carrément.
Voyons donc.
Donc il a construit son hôtel a tué. On dit, là, les rapports varient entre 27 et 100 victimes. Certains vont même jusqu'à 200.
Ah, ouais.
Ce qui arrivait une fois qu'il avait tué la personne. On va prendre l'exemple d'un, bon, une personne, là, un visiteur quelconque qui arrive de New York, tiens, puis dit, oh, mon Dieu, mais quel bel hôtel, tout neuf en plus, il vient d'être construit, je vais louer une chambre. Mm-hmm. La personne rentre dans sa chambre, ferme la porte, se retrouve coincé dans la chambre et éventuellement, du gaz s'échappe par un tuyau et il meurt, intoxiqué ou étouffé ou peu importe. Une fois la personne décédée, dans le sous-sol de l'hôtel, M. Holmes avait installé carrément une charcuterie où il descendait les cadavres, il les dépeçait. Quoi? Ensuite de ça, les faisait bouillir et s'organisait pour séparer la chair des os et reformait le squelette qu'il, après ça, pharmacien, dans le monde médical, il vendait les squelettes aux hôpitaux, aux universités, aux écoles qui enseignaient la médecine ou ont des domaines connexes. Alors, en plus de louer ses chambres, tuer les gens, il rentabilisait, après coup, il rentabilisait sa victime en vendant son squelette.
Donc, d'où le sujet de la rentabilité, rentabiliser la mort. C'est donc bien tordu.
C'est tordu,
c'est
hein?
C'est tordu en tabarouette comme idée.
C'est
comme...
Vraiment, lui, ça a été un des plus prolifiques et un des plus... tu dis tordu, là, vraiment, c'est tout un capoté. Le
oui, bon, ça, c'est...
Ça en était tout un.
C'était le démon, là.
Ben, c'est que... Il faut tellement être calculé. Et souvent, bon, les tueurs en série, on entend parler... la personne va s'introduire dans une maison parce qu'un soir, ses pulsions sont rendues trop fortes. Bon, se promène en voiture, finit par trouver une maison où il y a une femme seule, s'introduit, tue la personne et là, se sauve en courant. Lui, c'était calculé du moment. Il a fait construire une maison, là.
Exact, mais c'est quasiment à se questionner s'il n'avait pas bâti son plan de carrière pour, en fonction de ça.
C'était réfléchi depuis longtemps,
c'est
là.
C'est ça,
parce qu'il a dû faire les plans en fonction d'être capable d'installer ses différents instruments pour tuer des gens. Et il avait pensé jusqu'à, bon, je fais quoi avec le cadavre? Ah, ben, je vais le dissoudre, puis je vais vendre le squelette. That's it, c'est réglé. Puis en plus, il faisait de l'argent.
Ben, c'est ça.
Au bout de la ligne.
Ça me fait penser un peu à, tu sais, mettons, des humains, là, qui ont des idées extrêmement tordues, là, dégueulasses toute leur vie, et puis qui se bâtissent une personnalité connue, célèbre, populaire, riche, et qui, malheureusement... passe à l'acte après. Je pense à Hitler. Là.
Oh,
par exemple, Hitler, qui toute sa vie a eu cette haine envers les Juifs toute sa vie et qui l'a quand même caché là, toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne le leader de l'Allemagne et déclenche la guerre mondiale. Mais tu sais, ce gars-là, c'était un peu un psychopathe là, complètement
fou. Oh,
mais c'est un peu comme lui là, qui bâtit son hôtel. C'est fou parce que dans le monde de la santé à cette époque-là, avant qu'il se fasse attraper,
là, c'était y avait un besoin.
Ouais, c'est
il y avait un besoin et les squelettes n'étaient pas faciles à obtenir. Les squelettes humains n'étaient pas faciles à obtenir. Alors, il a comblé ce besoin-là et il comblait son besoin à lui de tuer. Il a combiné les deux ensemble et a fait du profit. Non seulement en louant des chambres à des victimes potentielles, mais en plus, après ça, en récupérant leurs squelettes et en le vendant. Alors... C'était un plan d'affaires qu'il y avait.
Ah, c'est
carrément.
Mais ça fait peur. Tu sais, je vois sa photo, là. Il y a quand même, tu sais, justement, un veston cravate.
Non, oui, non, c'est ça. Il avait l'air d'un homme respectable. Là.
C'est ça, exact. Tu vois, c'est ça qui m'écœure, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui. Tu sais, les criminels, souvent, on voit quelqu'un qui a comme les pantalons troués, qui a l'air d'un vrai bandit. Alors qu'il y a des scénarios extrêmement épeurants comme ceux-là qui se sont passés dans l'histoire de l'humanité.
Ben oui, je veux dire, Ted Bundy a été organisateur politique, je pense, pour le Parti républicain aux États-Unis. C'était un étudiant en droit qui était brillant à une certaine époque. À un moment donné, ça a déraillé. C'était un bel homme. Il attirait les femmes. Il n'y avait pas de difficulté, lui-là, à se trouver des blondes là, ou à trouver des conquêtes. Vraiment pas. Il paraissait bien. C'était vraiment pas le stéréotype du tueur capoté dans la tête, malade, fou, dangereux. Et pourtant... On sait, là, Ted Bundy, ça a été un autre tueur en série extrêmement violent et prolifique aux États-Unis. Donc, souvent, c'est trompeur un peu parce qu'on va croiser quelqu'un dans la rue, on va comme « Oh, lui, il me fait peur, il me fait peur. » Puis on croise quelqu'un d'autre qui « Ah, bonjour, comment allez-vous? » Ben, des deux, on sait pas qui pourrait être dangereux, là.
Exactement. Puis, est-ce qu'il s'est fait arrêter?
Ben, M. Holmes a tué, là, on disait, là, entre 27 et 200 victimes. C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas retrouvé les restes. Les restes, ils s'en débarrassaient. Ils vendaient les squelettes, donc il n'y avait plus de preuves, vraiment. Et il a... En fait, là, il a été exécuté par pendaison en 1896, à l'âge de 35 ans seulement. Là. Il était pas très, très vieux quand il a commencé à échafauder ses plans d'hôtel puis de meurtre et de commencer à tuer des gens et essayer d'en tirer profit là, financièrement. Mais lui, à la base, il voulait tuer. Il a juste trouvé une manière de faire de l'argent en plus, d'assouvir son besoin de tuer. Alors, M. H.H. Holmes, qui est un des pires tueurs en série là, de l'histoire américaine, et ça a été assez impressionnant. On l'a même associé, lui, à un certain point, à Jack l'Éventreur. Ah, on disait que Jack l'Éventreur aurait pu s'exporter aux États-Unis et prendre l'identité de H.H. Holmes, peut-être lui. En fait, là, il y a plusieurs preuves qui disent que non, c'est impossible. Mais il y a eu une rumeur à un certain moment donné que H.H. Holmes et Jack l'Éventreur auraient pu être la même personne.
C'était dans les mêmes années.
C'est ça. Okay. C'était en fait, H.H. Holmes a commencé à sévir un peu de temps après les meurtres de Jack l'Éventreur. Alors, on disait que bon, il a senti la soupe chaude en Angleterre, s'est exporté aux États-Unis, au Canada. Il a habité au Canada aussi une certaine période de temps. Bref, il y a un parcours absolument exceptionnel, H.H. Holmes. On pourrait même faire un épisode peut-être éventuellement juste sur lui. Mais là, il rentre dans le sujet aujourd'hui parce qu'il vendait
des squelettes.
Des squelettes. Il louait des chambres, il vendait des squelettes. Donc, il faisait deux fois du profit avec chaque victime. Ouais. C'est assez impressionnant.
Est-ce qu'on sait si l'hôtel est toujours...
Non, t'as raison. À cette époque-là, quand ça arrivait, des choses comme ça, on brûlait la maison, on rasait ça, on voulait effacer toute trace et tout souvenir de la personne. Mais c'était carrément une maison construite avec des dispositifs, des trappes, des portes secrètes, des portes qui barraient seulement d'un bord, vraiment construit et pensé dans le but de tuer des gens.
Un hôtel d'horreur.
Absolument, absolument. Et après, ben, c'est ça, récupérer les squelettes et les vendait aux différentes institutions médicales pour l'éducation. Il faisait du profit deux fois. Bon. Encore mieux que les deux autres. Puis là, il faisait de l'argent avant de les tuer, puis après les avoir tués.
Les clients payaient pour aller se faire tuer.
Et voilà, ils payaient pour se faire assassiner et se faire voler leur squelette carrément. C'est assez intéressant.
Ça m'écœure quand même.
Là, Tristan, on est dans les années 1800. On peut quasiment comprendre presque ce qui se passe en disant... OK, on est à une époque où la science est en train de se détacher du monde religieux, du monde mystique, du monde magique, tout ça. On n'a pas vraiment de dispositif en place. Les gouvernements se font prendre un peu par surprise. On a besoin de cadavres, mais là, on fait quoi? Comment on organise? On a peut-être une certaine compréhension. Ça explique, puis ça excuse pas ce qui a été fait, mais on comprend un peu le contexte dans lequel c'est arrivé, puis on se dit, bon, c'est dans les années 1800. Ça a été... Mais là, on se ramène en 2005. En 2005, là, c'est 15 ans derrière, c'est pas loin.
Ben ouais.
C'est un peu, je te dirais, c'est faut y penser pour le trouver morbide, ça. Parce que d'un certain point, comparé aux deux autres que je viens de vous parler, ça a l'air moins pire. Celui que je vais vous compter, là, 2005, là, celui auquel j'arrive, qui est notre dernier cas, je voulais de quoi de récent, mais j'en ai trouvé un.
Okay.
Donc là, on a... En 1827-28, dans ce coin-là, on tuait des gens pour vendre des cadavres. On a H.H. Holmes qui tuait des gens parce que c'est un tueur en série, mais en même temps, il voulait faire la pièce en vendant le squelette. Fait que là, on arrive en 2005. C'est pas une histoire de meurtre.
Okay.
On touche pas au meurtre. Mais on va parler d'un certain monsieur qui a fait les manchettes en 2005. Écoute, c'est une histoire de succès et de déchéance totale après. On a un monsieur qui s'appelle Michael Mastromarino. Michael Mastromarino, c'est un... il peut pas échouer, ce gars-là, dans la vie. Il est beau. Il est grand. Il a des épaules larges. Il séduit les femmes. Comme ça! Il vient d'une famille riche. Il est brillant.
OK.
Et Michael devient dentiste-chirurgien ou chirurgien-dentiste. C'est son but dans la vie.
D'accord.
C'est son ambition de devenir chirurgien-dentiste. Il réussit à obtenir tous ses diplômes, réussit à pratiquer... finit par établir son propre cabinet de chirurgien-dentiste. Ça va bien. Il a une belle femme. Tout va bien. La femme reste à la maison. Ils sont riches. Ils ont un manoir. C'est la vie parfaite. Monsieur Mastromarino finit par se faire des prescriptions à lui-même parce qu'il est chirurgien-dentiste. Il peut donc prescrire. Et il se fait des prescriptions à lui-même et commence à consommer des médicaments et des drogues de prescription. Tranquillement, pas vite. Ça va de moins en moins bien, ces choses.
Okay, ouais.
Alors, éventuellement, il se présente au travail, commence à opérer sur des gens. Ses collègues se rendent compte que, il n'est pas en état de pratiquer. On essaie de le couvrir pendant un certain temps, mais ça finit par venir aux oreilles des autorités. Certaines conditions sont appliquées pour dire, tu dois aller en désintox, tu dois être accompagné quand tu pratiques, tu dois faire des tests de détection de drogue, etc., etc. Pendant une certaine période de temps, M. Mastromarino reprend le dessus, réussit à continuer à pratiquer, et tout va bien dans le meilleur des mondes.
D'accord.
Éventuellement, il rechute, et là, de manière très, très grave, il perd sa licence. Il n'a plus le droit de pratiquer. Il est riche. Et quand on est riche, on veut rester riche. Alors, M. Mastromarino finit par... après des déboires avec sa femme, des histoires de tromperie, de conquête, d'arrestation, de prison en état d'ébriété, des petits larcins comme ça, il finit par s'asseoir et là dire « je reprends ma vie en main ».
D'accord.
Alors, il décide, étant donné qu'il ne peut plus pratiquer la dentisterie, ou ni de chirurgie, ni de dentisterie, parce qu'il était médecin, il ne peut plus le faire.
Il n'a plus son permis. Là.
Il n'a plus le droit de pratiquer. Licence. Alors là, il doit trouver une manière de rester riche. De maintenir son niveau de vie. Alors, il décide de lancer une entreprise. L'entreprise, en gros, ce qu'elle fait, et c'est des entreprises légales qui existent à plusieurs endroits dans le monde, des entreprises qui demandent la permission à des gens décédés ou à la famille de gens décédés, parce qu'une fois qu'ils sont décédés, c'est bien dur de leur demander la permission, mais aux familles où les gens signent des documents avant de décéder qui permettent de retirer certains organes. Ce ne sont pas des dons d'organes comme un cœur, par exemple, que ça se fait à l'hôpital pendant que la personne est encore branchée. Mais il y a certaines choses qui peuvent être récupérées après coup. Par exemple, partie des yeux, des os, de la moelle. Certaines choses comme ça peuvent être récupérées sur un cadavre qui est un cadavre et qui n'est pas non plus à l'hôpital le branché sur une machine pour garder les poumons, le cœur ou les reins en santé. Donc, une fois que la personne est décédée, il y a moyen de récupérer certaines choses. Alors, il décide de lancer cette entreprise-là. C'est un brillant chirurgien. Il est très habile, très bon. Donc, il lance cette entreprise-là et commence à récolter des organes comme ça pour les revendre sur des marchés privés qui existent à certains endroits ou à certains hôpitaux qui en ont besoin. Et tout va bien pour tout le monde. Tout le monde est heureux. Monsieur Mastromarino revient sur le dessus avec une entreprise à succès qui va bien. Sa femme qui est à la maison... est fière de lui, elle est contente qu'il s'est repris en main. Oubliez les petites tromperies, tout va bien.
Entreprise légale, don d'organes, tout est autorisé.
Tout est parfait.
Les gens sont volontaires.
Tout
est correct.
Tout à fait. Et la femme qui est là à la maison, mais participe dans l'entreprise d'une certaine manière, signe des documents, est co-signataire, copropriétaire, etc., etc. En 2005, M. Mastromarino se retrouve devant les tribunaux. On s'est rendu compte que M. Mastromarino faisait signer à sa femme des formulaires autorisant la récolte d'organes de gens qui n'avaient jamais autorisé ou des familles n'avaient jamais autorisé de récolter des organes sur le cadavre. Alors, il faisait signer des faux formulaires, les passait comme étant légal. Et ce qu'il avait fait, monsieur Mastromarino, très brillant, il avait fait ses bureaux, ses locaux et ses laboratoires en dessous d'une maison funéraire. Pour être plus proche. Alors, il faisait affaire avec la maison funéraire, disant « Ah, ben voici, le formulaire est signé, nous allons récupérer la personne. Allons ensuite récupérer. Ah, ben là, on dit, bon, OK, on peut récupérer la rétine, par exemple, de cette personne-là. On va récupérer la rétine, on va remonter après le cadavre. » Alors, il y avait un lift, un ascenseur qui descendait directement dans ses locaux où on pouvait mettre le cadavre et le descendre, le mettre sur la table et prélever ce qu'on voulait prélever, le remonter en haut à la salle d'exposition, par exemple, ou pour la crémation, et on le réinstallait dans la maison funéraire. Alors, il était dans la même immeuble que la maison funéraire. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les formulaires étaient faux dans la plupart des cas. Il n'y avait aucun dossier médical ou médico de fait sur les personnes. Alors, on ne savait pas de quoi la personne était morte. Si la personne avait une maladie infectieuse, si elle avait un cancer, si elle avait quoi que ce soit. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que systématiquement, dès qu'un cadavre rentrait dans la maison funéraire et qu'il était marqué pour crémation, il récupérait le cadavre et retirait absolument tout. Il vidait le cadavre. Et après, il remontait le cadavre à la maison funéraire et le cadavre était soit inhumé dans certains cas ou la plupart du temps brûlé pour crémation. Et là, on s'est rendu compte que le monsieur faisait... il récoltait carrément les organes de tous les cadavres qu'il pouvait de manière illégale. Et là, il a poussé ça à l'extrême parce qu'à un moment donné, si on vide un cadavre, là, lui, il vidait les os. Tout. Et ça paraît à un moment donné, ça a beau être un cadavre, mais ça paraît. On s'est rendu compte qu'il utilisait, entre autres, des tuyaux en PVC pour remplacer les os. Donc, il ouvrait la jambe de la personne, retirait les os, ensuite remplissait ça avec des tuyaux en PVC, recousait le tout. Et là, on a fait on a exhumé certains corps. on a fait des radiographies, on s'est rendu compte que c'était de la tuyauterie qu'il y avait à l'intérieur des gens.
Oh my God!
Et il y a plein de gens qui ont dû être rappelés d'urgence parce qu'ils avaient reçu des organes potentiellement infectés de différentes maladies.
Ah, ça a créé un, ça a dû créer un genre de chaos dans le monde de la santé.
Tout un scandale. Et là, on a dû réformer un peu la manière de faire parce que là, on s'est rendu compte, ben là, si lui a pu le faire, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir le faire.
Ben ouais.
Et finalement, sa femme n'était pas au courant de rien.
Ah ouais.
Et son nom paraissait sur les formulaires, paraissait sur différents papiers. Alors, ça a été là, une chute spectaculaire de cet homme-là qui a toujours été bien vu dans sa communauté, qui a toujours été au top, riche, les belles voitures, la belle maison, la belle femme, il y avait tout ce qu'il voulait. Mais en réalité, il ne vendait pas des cadavres, mais il dépeçait ou il enlevait tous les organes possibles et imaginables qui pouvaient être vendus de chaque cadavre sur lequel il pouvait mettre la main. Au début, il l'a fait de manière légale, puis il s'est rendu compte, non, je ne suis pas capable de faire assez de profit pour maintenir mon niveau de vie, il faut que je fasse de quoi. Donc, commencer tranquillement, pas vite, d'en prendre une fois de temps en temps, et c'est devenu systématique. Donc, il a carrément là, volé des cadavres dans une maison funéraire pour les dépouiller d'absolument tout ce qui était possible de sortir du cadavre avant de tenter de camoufler tout ça en utilisant de la tuyauterie, toutes sortes d'affaires comme ça, des trucs qu'il avait trouvés, qu'il pouvait faire pour remplacer ce qu'il prenait dans le cadavre.
Tout le monde s'est fait avoir, pas juste sa femme, mais le salon funéraire aussi, en acceptant qu'il s'installe en dessous, puis tout ça.
T'sais. Exactement. Et quand les enquêteurs sont arrivés dans les laboratoires, ça a été... ils sont rentrés dans une carrément une boucherie.
Ah ouais.
C'était... tout était sale, tout était taché de sang. C'était... crotté.
Il était dentiste, lui, à la base?
Oui, il était chirurgien-dentiste au départ.
Il n'avait pas vraiment la qualification. En tout cas, s'il l'avait, c'était pas un médecin, lui?
Non, de base, c'était pas un médecin. C'était un chirurgien dentiste. Ça veut dire que oui, il avait les capacités d'opérer. Il était capable de faire des pointitures. Il était capable d'opérer, mais c'était dans la bouche.
Ah non, c'est ça.
Mais étant donné que, bon, après sa chute, là, en tant que dentiste, il a perdu sa licence, il a dû trouver une manière de faire de l'argent, maintenir son niveau de vie qui était... Bon, je veux dire, quelqu'un qui fait $1 million par année, il ne veut pas accepter $60,000 l'année d'après. Là, ça ne marche pas. Donc, il a voulu maintenir son niveau de vie, maintenir le luxe. Mm-hmm. Et finalement, il a pensé lancer cette entreprise-là en pensant que ce serait très payant, mais ça ne permettait pas de maintenir son niveau de vie. Alors, il a commencé tranquillement, pas vite, à voler les organes dans des cadavres qui étaient amenés à la maison funéraire pour crémation, pour inhumation.
Ça pourrait faire un film d'horreur.
Absolument.
C'était où, ça?
C'était aux États-Unis, aux York.
À New York, OK.
Voilà, et c'est ça. Donc, l'homme de 42 ans, là, finalement, en 2006, a été trouvé coupable. Il a reçu une sentence entre 18 et 54 ans de prison.
Prison à vie.
Oui, ce soit probablement à vie, là, étant donné là, que, 54 ans plus 42 ans, là, on est rendu à 96 ans. D'après moi, il sortira pas de prison, là, monsieur. Alors, ça a été... Et puis, sur le coup, je vais te dire, honnêtement, quand je suis tombé sur cette histoire-là, je me disais, c'est un peu poche comparé aux deux autres. Et là, finalement, plus je lisais, je me disais, c'est donc bien dégueulasse, finalement. Je veux dire, il prenait... C'était vraiment, pour lui, là, c'était un morceau de viande. Là.
Non, c'est
je veux dire, le corps est envoyé à la maison funéraire. C'est que les gens sont en deuil encore. Là.
Exactement.
Ils vont probablement avoir une exposition. Bon, les gens vont avoir une cérémonie. Ils vont enterrer soit que ça va être une urne ou bien un cercueil. Mm-hmm. Les gens sont en plein processus de quitter une personne qu'ils aiment. Et ce qu'ils savent pas, c'est qu'il est rempli de tuyaux de PVC, de bourrures, de toutes sortes d'affaires pour essayer de refaire. Et là, eux, ils essayaient de replacer le cadavre. Bon, OK, la jambe a-tu l'air correct? Elle écroche pas mal.
Terrible.
Alors, replace le tuyau un peu. OK, es-tu droite? Là? Ouais, pas pire. Là. OK, c'était comme ça.
Non, c'est ça, exact. C'est vraiment de l'horreur. Là.
Ah oui, absolument, absolument. Faut pas avoir de faut pas avoir aucune...
sensibilité.
J'ai de la misère à m'imaginer que quelqu'un peut en venir à faire
ça. C'est monstrueux.
Absolument. Mais c'était très payant pour lui. Alors, il a continué à le faire. Il a augmenté la cadence de plus en plus jusqu'au point où, à un moment donné, on s'est rendu compte que les formulaires étaient douteux. Mm-hmm. Et quelqu'un s'est mis le nez là-dedans et on s'est rendu compte que pendant quelques années, M. Mastromarino pratiquait... le retrait d'organes de cadavres.
Donc, la rentabilité de la mort qui est le sujet d'aujourd'hui,
hein?
Ça date de 1827, mais comme tu le disais, c'est probablement arrivé un peu avant
aussi.
Oui,
probablement.
Puis ça, même en 2005, on a une histoire tordue à ce niveau-là.
C'est assez incroyable, hein, parce qu'il y a eu, je me souviens, dès que j'ai lu l'histoire de M. Mastromarino, ça m'a ramené à la légende urbaine de « Ah, oh, je suis allé au Vietnam, puis je me suis réveillé dans le bain rempli de glace, puis il me manquait un rein.
Ouais, ouais.
J'ai rencontré une fille, puis quand je me suis réveillé, il me manquait un œil. Ce genre d'histoire-là, il y en a eu plein ben d'histoires oui. De légende urbaine. C'est probablement arrivé une fois ou deux, ce genre de choses-là, mais c'était tellement répandu, la légende urbaine, c'est pas vrai, là, que c'était systématique que dans certains pays, on endormait les gens pour leur voler des organes. Mais ça m'a fait penser à ça.
Ben oui, c'est
vraiment
vrai.
À ça. Je me suis dit, ben, c'est une forme de ça. Bon, c'était sur des cadavres, mais on a quand même... je veux dire, moi, si ma mère décède demain matin, ça reste ma mère, même si elle est décédée. Son corps représente ma mère. Le gars à côté va dire, c'est un morceau de viande, mais bon, c'est ma mère.
Ben oui,
c'est regarde, dis-moi pas ça. C'est ma mère. J'ai un attachement sentimental à cette personne-là et son corps représente cette personne-là. Alors, de savoir par après que des familles qui ont fait des expositions, des cérémonies, des enterrements, avec, dans le fond, une enveloppe de peau remplie de tuyaux et de toutes sortes de choses, ça, y a des gens, là, ça a été épouvantable d'apprendre ça pour eux.
Ah, c'est
incroyable, mais des fois, l'argent est plus important pour certaines personnes que la valeur d'une vie humaine.
Ben, c'est ça, jusqu'où, c'est ça le côté obscur de l'humanité, hein, c'est de... Il y a des humains d'où ça vient la criminalité, là, tu sais, un philosophe Socrate, tu sais, qu'on se pose la question depuis l'Antiquité.
Ah, absolument.
Pourquoi le mal, les humains font des choses horribles, c'est-tu pour l'argent, le pouvoir, c'est-tu pour qu'est-ce
c'est toujours
que ça
un gain, hein, chaque action, pensez à ça, là, mais chaque action que vous posez dans une journée, c'est dans le but d'avoir un gain. Quelconque, c'est niaiseux à dire, puis ça a l'air, mon Dieu, on est tous décapotés. C'est pas vrai. Mais moi, si je prends ma gorgée de café là, c'est parce que j'ai soif, c'est parce que ça va me désaltérer, c'est parce que le café c'est bon. J'ai un gain de prendre mon café.
Oui.
Si je te dis salut en te croisant, j'ai un gain. Tu vas me sourire, tu vas me saluer, tu vas me dire, ah ben oui, tu vas acquiescer à ma présence. Ça me fait du bien comme humain de dire, ah ben il m'a dit bonjour, je suis content. On a tous un gain. Mais à un moment donné, le gain qu'on a devient de plus en plus élevé et l'action devient de plus en plus douteuse dans ces cas-là, où là, on était prêt à dépecer des cadavres de gens qui étaient même pas encore enterrés, les funérailles n'avaient pas encore lieu pour récupérer des organes. Pourquoi? Parce qu'on voulait de l'argent.
Non, c'est
carrément
ça.
De l'argent.
Puis comme tu disais, il était déjà riche, donc lui, ce qu'il voulait, c'était...
C'était de maintenir.
Exactement. En faisant des choses absolument horribles!
Ah, c'est incroyable. C'est assez spécial comme histoire. Alors, voilà, il y a des documentaires là, qui ont été faits là, sur M. Mastromarino, si vous voulez vous documenter. Toby Dye qui a fait un documentaire qui s'appelle Body Snatcher of New York. Il y a eu aussi là, plusieurs épisodes de différentes émissions qui... des émissions documentaires sur les crimes réels là, qui sont tellement populaires depuis un bout de temps. Vous pouvez en trouver. Là, si vous tapez Mastromarino dans Google, mais même dans votre application de Netflix, ce genre de choses-là, vous allez voir des trucs qui vont sortir. Là, donc, vous allez pouvoir peut-être vous documenter un peu plus. Là. Moi, j'ai survolé rapidement parce que son parcours, là, c'est incroyable. L'homme avait absolument tout pour réussir. Né d'une famille riche, études payées, devient chirurgien dentiste, fait de l'argent comme de l'eau. Il est bon dans ce qu'il fait. Là. Il est vraiment... C'est quelqu'un là, qui ne peut pas échouer, là. Il y en a du monde de même, ils nous énervent. Hein.
Ouais.
Tout ce que tu fais, toi, ça marche. Hein? Ça marche tout le temps, ce que tu fais. Il y a même du monde qui me le disent à moi, mais ils ne savent pas. Ils m'ont jamais vu emballer un cadeau. Ça, ils verraient que non, je ne suis pas bon dans tout. Vous dansez, quand je danse, les gens appellent l'ambulance. Mais ce homme-là avait tout.
Tout.
N'avait rien de négatif dans sa vie, mais absolument rien. Et il a commencé à consommer des médicaments de prescription par injection. Il s'est fait prendre souvent dans les toilettes en train de s'injecter, ce genre de choses-là. Sa descente a commencé là. Et là, il est en prison parce qu'il s'est rendu à faire ça.
Ah là là.
Quand tu regardes le avant et le après, tu te dis, mais pourquoi?
C'est comme...
T'avais tout ce que tu voulais dans la vie.
Comme Anakin Skywalker.
Ben oui.
Comme Obi-Wan disait, qui a été tué par la main de Dark Vador.
Ben oui.
C'est un peu
voilà.
Ça.
Le côté obscur, là, englouti.
Ben ouais. On en rit, mais c'est quand même horrible. Faut
C'est vraiment... Puis bon, c'est un sujet... Je trouve ça intéressant parce que ça nous permet de traverser différentes époques puis de voir qu'est-ce qui a pu pousser certaines personnes à faire certaines choses. Mais en même temps, c'est un des plus morbides, ça, que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en ai fait des solides, là, mais celui-là... Je pense que le côté, c'est plus le sous-entendu. Je pense que c'est Stephen King hein, qui disait « J'écris sur des bêtes étranges, du fantastique, des monstres mythiques. » mais le pire monstre, c'est l'humain.
Oui!
Et c'est vraiment ça qu'on voit dans cette recherche-là.
c'est fou. Peut-être en finissant, ça me rappelle quand j'étais jeune, on était en campagne, tu sais, ma mère, elle disait ça, elle m'avait déjà dit ça à moi et mes frères, puis ça nous avait fait peur. Là. Elle m'a dit, moi, là, quand vous allez dans le bois, là, quand vous sortez avec vos amis, là, elle dit, j'ai pas peur que vous croisiez une meute de loups, là, puis des coyotes, là. Elle dit, moi, j'ai peur que vous tombiez sur un humain, un malade!
Ah,
un
oui.
malade dans le bois!
C'est ça, pareil! Hein,
ça nous avait fait tellement peur! Je me rappelle, là, on envoyait là, un gars solitaire dans le bois, hey, qu'est-ce que vous faites là? Je me rappelle, ça m'a marqué, même encore aujourd'hui, genre, j'ai peur des fous.
Mais, je veux dire, les monstres mythiques sont mythiques, tandis que l'humain existe vraiment.
Exactement.
Et quand on fait des recherches de ce genre-là, on se rend compte à quel point l'esprit humain peut être dérangé et tordu,
ben,
à un point là, absolument incroyable. H.H. Holmes, là, cette histoire-là, moi, ça me fait dresser le poil sur les bras.
Ben,
chaque fois que j'en lis un bout, que j'en entends parler, là, lui, là, avec son hôtel, vendre les squelettes.
Ah, c'est terrible.
C'était une usine à meurtre.
Oh, il avait
carrément construit une usine pour tuer.
Ah, j'ignorais tout ça.
C'est le fun, ça. Si t'as appris quelque chose aujourd'hui, Tristan, ben, ouais, je suis content.
La rentabilité de la mort. Je savais pas un petit côté, un gros côté dark, noir et dégueulasse.
Le business de la mort.
Jason Lévesque, merci beaucoup.
Ben, merci d'avoir été là comme auditeur.
Comme d'habitude, d'aller liker notre page Facebook.
Ah oui.
Dossier bizarre. On partage des fois des petites folies, des photos humoristiques.
Pas dur à trouver en plus. Là.
Exactement. Ben ouais. Merci de partager le podcast sur notre page Facebook.
Oui. Partager en grand nombre. On a énormément d'auditeurs, on a énormément de fans et que des commentaires positifs. Vraiment, là, ça m'impressionne parce que là, ça va faire 25-26 épisodes qu'on fait. On a quasiment 30 heures de contenu en fait. Et on n'a que des commentaires positifs. C'est la première fois de ma vie que je vis ça. Je vis pas des commentaires positifs. C'est pas quelque chose que je tiens absolument à avoir. Mais d'expérience en tant que communicateur, c'est la première fois de ma vie que je vis avec un aussi gros produit que des commentaires positifs. J'attends tout le temps qu'il arrive de quoi à un moment donné, quelqu'un qui nous démolisse.
Non, c'est
mais ça arrive jamais. C'est que des commentaires positifs. Alors, un gros merci à tous nos auditeurs, à tous nos fans.
Merci à vous, effectivement.
Et les gens qui interagissent avec nous aussi.
Effectivement. Peut-être un petit, une petite parenthèse rapide. Là, je vous avoue que moi, je vais probablement parler des extraterrestres pour le prochain dossier bizarre.
Dossier bizarre était une présentation
un petit
de...
Là, on va retourner dans l'espace. Bonne journée à vous.
On va quitter l'esprit humain.
Test, tu serais là, Richard.
En train de jouer avec ma toupie.
Hey, bonne journée
à faire que de jouer avec ta toupie.
Mais j'aime ça, jouer avec ma toupie.
Bon, qu'est-ce qu'on fait à soir?
Rien.
Moi ça, rien?
Rien.
Faut que j'envoie un message à mon frère, mais j'ai plus de papier. Va utiliser mon pigeon voyageur. Ben voyons, ils viennent d'exploser. Non, va falloir que j'aille porter le message à pied. On va se le dire, Internet a pas mal changé nos vies. Pour un service Internet fiable et près de chez vous, faites affaire avec la RTC. Internet, télé, téléphone. Prenez les trois services pour économiser. 418-538-2451. Ou en personne au 992 rue du Boulot, Havre-Saint-Pierre.